On va ouvrir la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Nous lirons les quatre premiers versets. Voilà ce que l'apôtre Paul nous laisse comme exhortation. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Amen. Voici une exhortation solennelle que l'apôtre Paul nous laisse. Nous qui sommes le peuple de Dieu, nous qui sommes le peuple que Dieu a créé en nous unissant par la foi dans l'union à son Fils Jésus. Et c'est à cet égard que Paul nous lance cette invitation. Il nous exhorte à marcher d'une manière digne. Il dira ceci, marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Vous efforçant. L'unité de l'esprit. Nous voyons que Paul ne nous demande pas de rechercher l'unité. Paul ne nous demande pas de rechercher. Il dira ceci, vous efforçant de conserver l'unité. Nous pouvons réaliser que, et nous devons réaliser, que l'unité au sein de l'Église ne nous est pas venue par nos propres forces. L'unité au sein du peuple de Dieu ne nous est pas venue parce que nous avons fait des efforts personnels. Ce n'est pas par nos mérites que nous avons décidé de nous unir. Rappelons-nous réellement notre condition avant que le Christ soit venu à notre rencontre. Lorsque Paul s'adresse aux mêmes Éphésiens au chapitre 2, il va nous parler là de la base même de l'unité. Alors que Paul dira au chapitre 4 de conserver l'unité de l'esprit, regardez ce que l'apôtre dit. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère. Voilà la condition que nous avions avant que le Christ soit venu à notre rencontre, une condition bien terrible, et de cette condition, nous ne pouvions pas nous réunir, nous ne pouvions pas être unis, nous ne pouvions pas être assemblés en ce lieu tous ensemble parce que voilà, non, ce qui régissait nos vies, c'était nos propres pensées, ce qui régissait nos vies, c'était le péché qui nous enveloppait si facilement. Mais l'apôtre Paul nous montre la grâce de Dieu. Une grâce insondable, une grâce infinie, alors qu'il montre la condition des hommes dans ce monde. Il dira au verset 4, « mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. » Et ce n'est pas grâce que nous sommes sauvés. Alors si l'apôtre nous demande ici de conserver l'unité, c'est qu'elle existe déjà par le Saint-Esprit. On l'a chanté tout à l'heure. Avec ton esprit, nous vivrons l'unité. Avec ton esprit. J'aimerais ce matin que nous nous exhortions par ces paroles pour nous rappeler que le Seigneur a tout accompli à la croix. C'est au travers de l'œuvre de Jésus que nous pouvons nous rassembler ce matin, malgré nos différences. Je suis différent de vous, vous êtes différent de moi. Je ne suis pas de ce pays, mais grâce à Dieu, je peux me tenir là devant vous. C'est une grâce. Si le Seigneur n'avait pas opéré un travail au fond de mon cœur, au fond de votre cœur, nous ne serions pas là ce matin. Il a fallu une transformation. Il a fallu déjà la révélation de Jésus. Il a fallu qu'il se révèle à nos cœurs. Il a fallu qu'il nous remplisse de son amour. Alors qu'il a extirpé de nos cœurs le péché qui nous enveloppait, son amour nous a remplis. Son esprit a pris place en nous. Lorsque Paul parle de ça, il exhorte les chrétiens à conserver l'unité de l'esprit. Nous devons réaliser que voilà, c'est l'expression même de tout croyant. C'est ce qui fait l'objet de nos rencontres. L'unité de l'esprit, c'est la base. Il y a en effet quelque chose que le Seigneur a opéré. Lui qui a réuni juifs et non-juifs. Lui qui a agi dans les cœurs de différentes personnes pour nous rassembler. Frères et sœurs, nous ne devons jamais perdre de vue là où le Seigneur nous a tirés. Ne perdons jamais de vue là où le Seigneur nous a tirés. Nous devons en permanence nous rappeler, non pas avoir un souvenir amer. Ce n'est pas ce dont je parle. Non pas nous rappeler pour nous culpabiliser, pour demeurer dans cette culpabilité, mais au contraire, nous rappeler que si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est par la seule grâce de notre Seigneur. C'est lui qui a fait l'œuvre et il continue de faire cette œuvre. Alors, nous étions embourbés dans la boue du péché, comme Paul nous le rappelle. Nous n'avions point d'espérance, car nous étions sans Christ. Nous n'avions point d'espérance. Mais nous souvenons de ce que l'apôtre va dire à Timothée dans sa première épître, au chapitre 1er, verset 1er, « Au regard de l'œuvre de Jésus, qui a livré sa vie à la croix, c'est lui qui est devenu notre espérance. » Il y a là un souvenir pour nous, frères et sœurs, ce matin, de réaliser qu'au travers de l'œuvre de Jésus, nous qui n'avions point d'espérance, parce que nous n'avions point Jésus dans nos cœurs, au travers de ce qu'il a accompli, son sang ayant été versé, son corps brisé, meurtri pour le pardon de nos péchés, son amour qui nous a lavé et rempli, il est devenu notre espérance. Cette espérance en Jésus, C'est la preuve que nous avons été réconciliés avec Dieu. C'est la preuve que nous avons été renouvelés. C'est la preuve que nous avons été restaurés. Nous avons été restaurés. Il y avait une condition médiocre. Et le Seigneur nous a renouvelés. Il nous a restaurés. Comme Paul va le dire, il nous a rendus à la vie. Nous qui étions morts. Alors, puisque le Seigneur nous a réconciliés avec Dieu, il a permis par là que nous soyons en communion avec lui. Il a permis que nous soyons en communion avec son Fils, avec l'Esprit, mais il nous donne par sa grâce d'être en communion les uns avec les autres. Oui, ça c'est l'œuvre de Dieu. Parce que lorsque Paul écrit à ses chrétiens, il se souvient de la condition de certains. Il y avait des juifs et il y avait des non-juifs. Des juifs et des non-juifs. Mais des deux, le Seigneur n'en a fait qu'un. Et c'est à cause de cela que nous sommes là, chacun pour notre part. C'est lui qui nous rassemble. Il a créé en lui-même, avec les deux, un seul homme, comme Paul le dira, un seul homme nouveau. Et ça nous parle de l'unité du peuple de Dieu. C'est la preuve que Dieu n'est pas le Dieu du désordre. En ce qui concerne l'unité, quand Dieu parle d'unité, ça montre que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il est un Dieu d'ordre. Parce que avec le péché, il y avait le désordre sur toute la terre. Il y avait ce désordre. Mais Dieu, dans sa grâce, a rassemblé les hommes. Jésus nous le rappelle dans sa prière sacerdotale, ce qu'on appelle communément la prière du serviteur. Dans Jean au chapitre 17, lorsque Jésus va adresser sa prière à son Dieu, regardez ce qu'il va dire au verset 11. Jean chapitre 17, verset 11, il dira ceci. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés afin qu'ils soient un comme nous. Afin qu'ils soient un. Il y a une unité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et Jésus, lorsqu'il va s'adresser à son Père, au regard de l'œuvre qu'il a accomplie, il dira ceci. Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés. Il s'adressa à ceux de son époque. Et cette parole s'adresse également à nous. Nous sommes le peuple que Dieu a donné à son Fils. Et il dira, garde-les, protège-les, secours-les, afin qu'ils soient un, comme nous, nous sommes un. Vous savez, l'unité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous a été d'emblée révélée dès le commencement. Après avoir créé toute chose sur la terre, qu'est-ce que Dieu va dire? Dans Genèse, au chapitre 1er, il y a cette parole que Dieu va donner. Alors qu'il pouvait utiliser un singulier, Dieu dira, faisons l'homme à notre image. Faisons. Pourquoi Dieu s'adresse-t-il au pluriel? Pourquoi s'adresse-t-il au pluriel alors que c'est lui qui parle? Quand vous parlez, vous ne vous adressez pas au pluriel, n'est-ce pas? Vous dites « je » aussi à plusieurs personnes. Qu'est-ce que vous dites? Nous. Nous. Mais si c'est une personne qui parle, on dira « je ». On aurait cru que Dieu allait dire « maintenant je fais l'homme à mon image ». Mais il dira « faisons » pour montrer que dès le départ, à la base, il y avait cette unité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père qui est au contrôle de tout, le Fils qui est venu pour révéler le Père et le Saint-Esprit qui est venu communiquer aux hommes tout ce qui est dans le Fils. Dieu s'adressait à son esprit, à l'œuvre dès la création, et montre l'unité qui existe. Mais le Dieu montre également l'unité de l'homme avec lui. Il dira, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Puisqu'il y a entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit cette unité, l'homme créé à l'image de Dieu, l'homme créé à la ressemblance de Dieu et qui est le reflet de la personne de Dieu, qui est une représentation de la personne même, le reflet de sa gloire. Alors, puisque entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il y a cette unité, entre ceux et celles qui ont été créés par grâce, ils devraient également avoir cette unité. Il advient donc aux hommes que nous sommes de bien gérer ce que Dieu nous a confié. Vous savez, nous sommes des intendants des choses du Seigneur. Que fait un intendant? Que fait un intendant? Dites-moi, que fait un intendant? Il gère, il garde ce qu'on lui a confié. Il ne fait pas ce qu'il veut avec ce qu'on lui a confié. N'est-ce pas? Non. Si on lui a confié quelque chose, c'est pour qu'il le gère convenablement. Non pas par ses principes, mais il le fait à travers les principes que son supérieur lui a donnés. Nous également, frères et sœurs, exhortons-nous par ces paroles. Parce que Paul dira, efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit. Vous savez, bien que différents des uns des autres, le Saint-Esprit nous a unis. J'aimerais m'arrêter un instant sur ce mot « efforcez-vous ». Vous savez, comme cela nous a été dit, c'est le rôle du Saint-Esprit à travailler l'unité au sein du peuple de Dieu. C'est lui qui nous a conduits dans les voies du Seigneur. Mais lorsque Paul utilise ce terme, il nous rappelle une réalité, que nous avons notre part de responsabilité. Efforcez-vous. Efforcez-vous. Vous savez, dans bien des domaines, nous sommes promptes à faire beaucoup d'efforts, n'est-ce pas? Dans bien des domaines, nous sommes promptes à faire des efforts. Mais là, l'apôtre parle de ce qui va montrer la valeur de l'amour de Dieu au sein du peuple de Dieu. Il montre ce qui va montrer aux yeux de ceux qui nous regardent, de ceux qui regardent l'Église, que c'est une entité voulue de Dieu, à l'image de Dieu et selon les principes de Dieu. Faire d'efforts. Vous savez, si faute d'efforts, l'unité peut s'évaporer. L'unité ne se conserve pas tout seul. Il faut y travailler. Malheureusement, au sein de nos communautés, nous regardons le plus souvent à nos différences. Et parfois, ces différences nous conduisent à des divisions. Ça nous conduit à des divisions. Quel dommage! Quelle tristesse même, je veux dire, dans le cœur de Dieu. Parce que souvenez-vous ce que Paul, l'apôtre Paul va dire aux Corinthiens. Certains disaient, moi je suis de Paul. D'autres, moi d'Apollos. Mais que dira Paul? Que dira Paul? Qu'est-ce qu'il va dire à ces chrétiens? Eux qui étaient bien que spirituels, qui avaient tous les dons, il va montrer l'apôtre Paul ce qui était au plus profond des cœurs. Dans 1 Corinthiens au chapitre 1er, l'apôtre dira à ses chrétiens, puisqu'il y a des divisions parmi vous, L'un dit, moi je suis de Paul, voilà, l'autre, moi d'Apollos, et moi Céphas, et moi Christ. Christ est-il divisé? Dira Paul. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Il remet les choses dans l'ordre, l'apôtre Paul. Voyez-vous, les différences conduisent parfois à des divisions, mais cela ne devrait pas se produire au sein du peuple de Dieu. Au lieu de nous concentrer sur nos différences, nous devons plutôt nous efforcer à regarder à ce qui nous unit, la croix. La croix. Quand je détourne mes regards de cette croix, bois sur lequel le Christ s'est livré, moi qui étais pécheur, et privé de la grâce de Dieu. Moi qui étais soumis à la colère et à la condamnation de Dieu. Et si rien n'était fait, j'étais destiné à la condamnation éternelle. Et c'est à cause de moi que Christ s'est livré. C'est à cause de moi qu'il a enduré la souffrance. Mais pas pour moi seul. Heureusement d'ailleurs. Heureusement d'ailleurs. Parce que je ne descends pas d'une île déserte comme vous. C'est à cause de nous. Mais si chacun se disait, c'est à cause de moi qu'il a été crucifié. C'est pour moi qu'il a livré sa vie. Et au lieu de regarder à nos différences, nous regardions à ce qui nous unit. D'où l'importance de ces paroles de l'apôtre Paul, alors qu'il exhorte ses croyants à l'unité de l'esprit, il dira ceci au chapitre 4, verset 4, il y a un seul corps. Un seul corps. Un seul esprit. C'est l'Esprit de Dieu. S'il y a un autre esprit que l'Esprit de Dieu au milieu de nous, que cet esprit soit chassé au nom de Jésus. Il y a un seul esprit. Il continue en disant ceci. Comme vous avez été appelés à une seule espérance. Nous n'avions pas cette espérance. Mais Jésus nous l'a donnée. Il y a un seul Seigneur. Celui qui gouverne notre vie. Ce n'est plus nous-mêmes, ce n'est plus moi-même, mais c'est celui qui a livré sa vie pour moi. Il y a une seule foi. Une seule foi, dira Paul. Un seul baptême. La mort et la résurrection de Christ. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout et parmi nous tous et en tous. Mais il dira après l'apôtre, mais à chacun de nous, la grâce de Dieu nous a été donnée selon la mesure du don de Christ. La grâce de Dieu. L'unité qui existe au sein du peuple de Dieu renforce nos liens et consolide nos relations. Et cela nous montre à quel point nous devons nous soumettre à celui qui nous a procuré cette unité. Dans Amos au chapitre 3, verset 3, Dieu par la bouche de son prophète dira ceci. Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans en être convenus? Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans en être convenus? Quand nous regardons le contexte dans lequel ces paroles ont été prononcées, Dieu avait accordé des privilèges particuliers à Israël. Mais à cause de son infidélité, il y a eu un désaccord profond entre Dieu et le peuple, ce qui a mis en cause la possibilité d'une marche ensemble. Quelle est la portée de ce verset pour nous aujourd'hui? Cela nous amène à réaliser que pour vivre ensemble, pour travailler ensemble, pour marcher et pour avoir des projets et voir leur accomplissement, qu'est-ce qu'il faut? L'unité. Il dira le prophète Amos, deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans en être convenus? Sans en être convenus. Voilà le point d'accroche. Savez, nous qui sommes les croyants, le peuple que Dieu a racheté, et nous constituons la famille de Dieu, nous l'avons chanté tout à l'heure, nous sommes unis dans la famille de Dieu. Nous devons être convenus, non pas sur nos pensées à nous, mais sur ce qui est important aux yeux de notre Seigneur. C'est ce qui va consolider nos relations. C'est ce qui va donner de la valeur et de la puissance à l'unité qui existe au sein du peuple de Dieu. Lorsque, malgré nos différences, notre point de focus, c'est ce qui est important aux yeux du Seigneur. Vous savez, puisque le Seigneur veut conduire son Église à un service commun, nous avons un service commun, c'est le salut des âmes. Puisque le Seigneur veut se servir de nous pour un tel service, cela demande de la part de chacun de nous cette prise de conscience que nous devons nous efforcer à conserver ce que Dieu a instauré au milieu de nous. Parce que diront celui qui est au dehors, qui entre dans l'Église, qui n'est pas parfaite, certes. Mais que diront ceux qui sont au dehors, eux qui sont rentrés croyants, trouver quelque chose de différent? Que vont dire ces personnes-là quand ils rentrent en trouvant le désordre qu'il y a au dehors? Marcher ensemble ne signifie pas accepter des compromis. Eh oui, ça ne signifie pas qu'on accepte les compromis. Parfois, on ne veut pas dire quelque chose à mon frère ou à ma sœur sous prétexte de le vexer. Mais vous savez, si c'est juste à cause de ne pas vexer quelqu'un, que je me réserve de lui dire la vérité avec amour, non seulement je me fais du tort, mais je fais du tort à mon frère, à ma sœur. Parce que ce qui devrait avoir la priorité, ce ne sont pas nos pensées, mais c'est la parole de Dieu. C'est le socle sur lequel nous devons nous tenir. Le Seigneur ne nous demande pas de marcher avec celui avec qui nous allons simplement caresser dans le sens du poil. Il nous demande de marcher avec celui ou celle qui invoque le Seigneur d'un cœur pur, et la pureté du cœur provient de notre soumission à la parole de Dieu. Paul le dira dans 2 Timothée au chapitre 2, verset 22. 2 Timothée, chapitre 2. Regardez ce que l'apôtre Paul va dire. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix. Avec qui? Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Vous savez, c'est uniquement une réelle soumission à la parole qui amènera l'Église à vivre et à conserver l'unité. Dans Jean chapitre 17, toujours dans sa prière à son Père, les versets 20 à 23, voyons ensemble ce que Jésus va dire. Jean chapitre 17. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Quelle parole ! Quelle prière ! Quelle prière ! Jésus qui demande au Père. Ce qui montre que ce qu'il recherche le Seigneur, c'est le témoignage au sein du peuple en ce qui concerne l'amour fraternel qui est la preuve que Jésus est l'envoyé de Dieu. Quand nous nous efforcerons de conserver ce que le Seigneur a institué au milieu de nous, cela confirme que nous avons été au bénéfice de ce que le Fils est venu faire au milieu de nous, du travail qu'il a accompli dans nos cœurs, dans nos vies. Et nous pouvons être le reflet de sa personne autour de nous. Et il dira Jésus, afin que le monde connaisse. Voilà la finalité. Afin que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés. Et que tu les as aimés. L'unité, c'est la preuve que Dieu nous a aimés. C'est la preuve que Dieu a manifesté son amour. Ça témoigne de l'amour de Dieu. Oh, quel privilège, quelle grâce, frères et sœurs. Ah, je me réjouis, hein. Je me réjouis d'être au milieu de vous. Je me réjouis de pouvoir vivre ces choses avec vous. Bien que nous soyons différents, nous avons des caractères différents, nous avons des personnalités différentes. N'en parlons même pas de la couleur de peau. Eh bien oui, s'il y a quelqu'un de différent que vous, c'est moi. Eh bien oui, je suis différent de vous physiquement. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Christ est-il mort pour les blancs uniquement ? Loin de là. Est-il mort uniquement pour les noirs ? Loin de là. Il est mort pour tous les hommes. Le Seigneur dira, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, il a tant aimé le monde, afin que quiconque croit, que ce soit des blancs, des juifs, des asiatiques, quelle que soit la couleur de notre peau, le Seigneur nous a fait une famille. Et c'est cette famille qui devrait refléter la gloire de Dieu. À quelle grâce! C'est pour cela, vous savez, moi, je ne suis pas partisan des églises ethniques. Je ne suis pas partisan. Ça, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Je ne suis pas partisan des églises ethniques. Pourquoi ? Parce que dans le ciel, il n'y aura pas un coin pour les noirs. Hey yo, pote, on est ensemble ici, hein ? Ah non, hein ? Non. Dans le ciel, c'est tous ceux et celles qui se seront préparés à l'avènement de notre Seigneur qui se réjouiront. Qui se réjouiront. Vous et moi. Vous et moi. Donc, il y a quelque chose de puissant, de merveilleux que nous donne la parole de Dieu. Et je termine sur ce point. Vous savez, l'unité renforce également notre foi. Ça renforce notre foi. Dans l'évangile de Marc au chapitre 2, Jésus parle de quatre hommes. Et l'unité nous permet de remporter la victoire. Il parle de quatre hommes qui avaient un ami paralytique. Vous connaissez ce passage, mais nous allons le lire. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Et ce qui est frappant, c'est ce que Jésus va dire. Jésus voyant leur foi. Il n'était pas question uniquement de la foi du paralytique. Il est question de la foi de ces quatre hommes qui ont uni leurs forces. Ils ont uni leurs forces pour braver la difficulté. La difficulté, c'était la foule qui les empêchait d'amener le paralytique à Jésus. Mais parce qu'ils ont uni leurs forces, voilà, ils sont allés jusqu'au bout et leur foi a démontré réellement ce qu'ils étaient. Ils ont découvert le toit. Ils ont fait descendre cet homme. Et Jésus dira, voyant leur foi, il dit au paralytique. Vous savez, c'est merveilleux cette parole. Ceux qui sont unis dans le Seigneur, lorsque nous conjuguons notre foi pour demander quelque chose, le Seigneur se glorifie. Si deux ou trois s'accordent pour demander quelque chose, nous dit la parole, le Seigneur le fait. Jésus, voyant leur foi, il dira au paralytique, « Lève-toi !» Quelle grâce ! Voyant leur foi, ils mettent leur foi, leur force en commun. Ils ont mis leur courage en commun pour soutenir celui qui était dans le besoin. Qu'en est-il de nous ? Et je me réjouis. Vraiment, je me réjouis de cette semaine que nous avons pu passer dans la prière. Je me réjouis, frères et sœurs. Je bénis Dieu pour une telle prise de conscience de la nécessité de s'unir pour chercher la face de notre Dieu. Pour supplier Dieu de faire grâce à ceux et celles qui se perdent autour de nous. Ils n'ont pas uni leurs forces pour demander à Jésus de faire quelque chose pour eux-mêmes. Quoi qu'ils aient des besoins eux aussi, comme nous aussi nous avons des besoins. Mais parfois il est bon, frères et sœurs, que nous mettions de côté nos propres besoins en portant le regard sur le besoin de mon frère, de ma sœur, de celui qui ne peut pas s'en sortir par lui-même. Que le Seigneur nous bénisse, frères et sœurs. Paul, je reviens sur ce que Paul dira. Au regard de tout ce que le Seigneur a accompli, de son amour, de sa fidélité, de sa grâce, il encourage et il exhorte les chrétiens d'Éphèse en leur disant « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit. » Par le lien de la paix. Et ça se fait avec humilité. et douceur. Comme Paul va le dire, avec patience. Eh oui, il faudrait qu'on ait de la patience les uns envers les autres. Il faut qu'on ait de la patience. Combien nous sommes impatients? Nous sommes très impatients. Vous supportant les uns les autres. Ouh là là! Pasteur, ne rentre pas dans ce domaine. Hein. Et pourtant, c'est la condition, c'est une des conditions qui nous permettra de conserver ce que Dieu a institué au milieu de nous. En nous supportant les uns les autres. Vous savez, nous étions insupportables aux yeux de Dieu. Et peut-être que nous le sommes encore aujourd'hui. Mais lui, il nous a supportés. Et il nous supporte encore. Quelle leçon pour moi, pour ma part. Quelle leçon pour moi. En me disant, si le Seigneur m'a supporté au point de m'aimer, au point de ne pas me rejeter, au point de me tendre la main alors que je n'étais pas digne, si le Seigneur a fait cela, pourquoi ne pas supporter aussi? En toute humilité et douceur, oui, il y a des moments où il faut entreprendre des actions. Parce qu'en tant que serviteur, il y a des moments où il faut reprendre, mais avec douceur. Fermeté, certes, mais avec douceur. Mais ce qui va maintenir cette unité, c'est ce que Paul va dire. L'humilité, la douceur, la patience, nous supporter les uns les autres avec charité. Voilà. Frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse. Oui, que le Seigneur nous bénisse. Il est temps que l'Église se démarque du reste du monde. Parce que le jour du Seigneur se rapproche. Il se rapproche encore aujourd'hui plus que hier. Et il en sera encore de même demain. Et nous avons besoin pour notre part de demander au Seigneur de nous aider à refléter sa personne autour de nous. Parce que lui, son désir, c'est d'ajouter à son Église des âmes sauvées. On prie le Seigneur. Amen. Tu es merveilleux, Seigneur. Toi qui as livré ta vie pour unir ceux et celles qui t'ont rejeté auparavant. Tu nous as supportés et tu nous supportes encore. Seigneur, quelle leçon pour moi, quelle leçon pour nous. Alors que nous n'étions pas aimables, tu nous as aimés. Tu as fait de nous une famille dans laquelle, Seigneur, tu désires agir, dans laquelle tu désires te glorifier, dans laquelle tu désires encore ajouter des âmes pour ta gloire. Ce matin, pour ma part, je me réjouis de cette famille que tu m'as donnée. Et je me rends compte, Seigneur, que j'ai ma part de responsabilité pour maintenir cette unité, cette paix que tu as instaurée au milieu de nous. Seigneur, aide-nous par ton esprit. Parce que par nous-mêmes, nous n'arriverons pas. Nous ne ferons, Seigneur, que attrister ceux qui sont autour de nous par nos comportements, par nos paroles. Mais pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Parce que nous réalisons que les temps sont difficiles et ton retour est imminent. Et combien tu veux te glorifier en nous et à travers nous. Seigneur, bénis encore ton Église en cette journée. Tout au long de cette semaine, que chacun de nous, Seigneur, nous nous efforcions de mettre en pratique ce que tu nous as donné pour la gloire de ton nom. Bénis cette semaine, Seigneur. Nous ne savons pas, Seigneur, ce qu'il adviendra. Mais nous te demandons, Seigneur, de nous aider à avoir nos yeux fixés sur toi. Bénis ce temps de prière encore. Révèle-toi à nos cœurs et manifeste ta puissance. Merci de bénir la réunion cet après-midi. Seigneur, mon Dieu, nous prions que des âmes soient sauvées. Nous prions, Seigneur, que tu relèves, que tu guérisses, Seigneur. Ô Éternel, glorifie-toi. Accompagne chacun et conduis-nous encore pour la seule gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous bénisse.